France Musique. Musique et moi. Amira Kazar. Elsa Boublil. Forget me, forget me not.
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort keine mehr. Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit, kennt mich mehr hin, und keiner kennt mich mehr
hin. C'est sur ce Lied in der Fremde, interprété par Matthias Görne et Eric Schneider, extrait des Liederkreis de Schumann, que nous vous accueillons, Amira Kazar, comédienne française née en Angleterre, polyglotte, passionnée de musique classique, d'opéra et de tragédie, à l'affiche de nombreuses choses, notamment Des Sauvages, la grande nouvelle série politique de Canal+, réalisée par Rebecca Zlotowski, dans laquelle vous jouez le rôle d'une chef d'orchestre, épouse du nouveau président de la République, incarné lui par Roche Dizem. Une série qui dresse un portrait de la France en proie à ses démons contemporains, marqués par l'état d'urgence, le terrorisme, le passé colonial et le racisme. Mais on vous est également à l'affiche de Sœurs d'armes de Caroline Fourest depuis le 9 octobre dernier. Et puis vous avez joué comme récitante Médée de Cherubini au festival de Salzbourg avec des textes écrits par Simon Stone avec l'orchestre philharmonique de Vienne sous la direction de Thomas Hengelbrock. Bonjour Amira Kazar, ça fait beaucoup de belles choses, toutes plus ou moins en lien avec la musique quand même.
Oui, mais toutes différentes.
Toutes différentes. Et cette étrangeté, ce malaise qu'on a entendu dans cet extrait des Liederkreis de Schumann avec In der Fremde, qui est bien rendu pour ouvrir à la fois notre émission, la sensation qu'on a en regardant Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, on aura l'occasion d'en parler au cours de cette émission. Et puis, c'est un souvenir d'enfance, je crois.
Oui. J'avais une mère qui était musicienne et elle chantait ça. Et puis on chantait ça à la maison avec elle autour du piano avant d'aller à l'école. Et puis ouais, je trouve ça très émouvant.
Vous aviez connaissance du sens des paroles ?
Un petit peu, ouais.
Vous doutiez de ce qui se racontait ?
Après elle m'a raconté, mais après j'ai appris un peu l'allemand, je dis un peu. Ouais. Et puis non, j'aime tellement les textes Schumann. Je crois que c'était même un cadeau à Clara.
Oui, tout à fait.
Et cette dévotion, ces deux artistes passionnés qui vivent ensemble, après la relation de Clara avec Brahms et les lettres, m'ont passionnée. Je dois dire qu'elles sont vraiment passionnantes. L'ont-ils fait, l'ont-ils pas fait ? Et la grande question du siècle.
Mais j'aime. Mais l'amour est là, en tout cas.
Oui, l'amour inconditionnel est là. Et l'amitié amoureuse est vraiment là. Et je trouve qu'il y a quelque chose de tellement mélancolique. Il y a l'espoir. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont écrit ça au piano, après le petit déjeuner, qu'il a composé pour elle et qu'ils sont allés se balader dans les bois. Et tout ça revient et on écrit un autre lied et Et voilà.
Et on continue. Qu'il viendra vite, hélas, oui. Le temps où je reposerai moi aussi au-dessus de moi, bruira dans sa splendeur, la forêt solitaire, et plus personne ne me connaîtra ici. Ça nous renvoie aussi à votre phrase de chevet, forget me, forget me not. Il y a quelque chose que vous voulez voir figurer sur votre épitaphe, vous disiez.
Oui. Parce que je crois que je dois vivre le paradoxe absolument et infiniment et sans me freiner. C'est-à-dire que le métier que je pratique est un paradoxe et je suis paradoxale et je me rends compte que je peux pas fuir ça. Je veux à la fois apparaître et disparaître. Et c'est pas une posture, c'est vraiment comme ça que je suis.
Pour faire suite à ce que vous disiez à l'instant, Amira Khazar, sur le fait d'être une artiste qui cherche à la fois à être visible et à s'abriter autant que possible, vici d'arte, vici d'amore, l'acte 2 de Tosca, voilà, j'ai vécu d'amour, j'ai vécu d'art, de Tosca de Puccini, interprété par Maria Callas avec l'orchestre du Metropolitan Opera de New York sous la direction de Dimitri Mitropoulos.
Live.
Live, exactement, ça s'entend.
C'est une lancée. Ce que j'aime chez Callas, c'est que il y a la beauté qui cohabite avec la laideur. Et je trouve que c'est une des rares. C'était votre choix, parce que moi, j'ai souvent joué Callas.
Oui, je soumets des choix à mes invités. Ouais. C'était mon choix.
C'était votre choix. Mais merci, parce que c'est vrai que c'est... On sent tellement que la musique est l'artère principale de sa vie. Et c'est le cas pour moi. Moi, j'ai le théâtre, le texte, la parole, la poésie. Mais voilà. Et cette femme, je trouve que quand elle chante, c'est vraiment une lancée. Et elle accepte la laideur parce que elle attaque toujours la note à l'endroit honnête. Juste, elle prend pas en dessous, elle triche pas. Et parfois, la note ne sortait pas. Mmh. Comme on sait, on connaît des tas de légendes et d'histoires sur elle, où elle reprenait l'orchestre quand elle arrivait pas au High C. Et j'aime cette femme qui a finalement vécu de sa voix. Et c'est finalement un peu le métier qu'on fait nous aussi, qui...
Comme comédienne.
Oui, c'est cette, on revient toujours à ce fameux paradoxe, mais vivre de son art. Et c'est ça, pour moi, la définition d'une vraie diva. C'est pas une femme difficile, parce que on n'est pas dans une société matriarcale en France. Non. Vraiment pas du tout. Même s'il y a du progrès, on n'est pas du tout dans une société matriarcale. Contrairement à l'Allemagne ou l'Angleterre, où il y a eu des reines, des présidentes, enfin des, voilà. Et cette femme-là, ce que je trouve très, très, très beau chez cette femme, c'est que elle prend sa puissance entre ses mains, elle prend sa destinée entre ses mains et elle est jusqu'au boutiste. Et c'est ça qui a primé par-dessus tout dans son travail. Et chez Tosca, il y a ça aussi.
Avec la fragilité qui lui incombe.
Oui, et Tosca est une actrice et elle vit de ça. Et ce que je voulais dire, c'est que, pour revenir aux femmes, on a souvent, de côté péjoratif, dit à une femme, oh bah, elle a beaucoup de personnalité. Moi, on me l'a beaucoup dit enfant, ou même quand j'ai commencé à travailler très très jeune, ou dans la mode, ou au conservatoire.
Et c'est national. Pas bien d'avoir de la personnalité?
Et, si, mais c'était toujours dit de façon péjorative, par les hommes.
C'était... Pourquoi? Qu'est-ce que ça entend?
Parce que ça voulait dire que, on disait diva, on confondait le divaïsme. Alors, pour moi, le divaïsme, c'est pas les caprices. La diva, c'est celle qui vit et meurt et tremble pour son métier, son art, et que son art, c'est l'artère principale de sa vie. Et c'est ça, pour moi, une diva.
Et vous qui avez grandi avec un environnement quand même musical, votre mère chantait, la présence de l'opéra comme ça dans votre vie, ce que vous arrivez à décrypter, à si joliment nous dire à l'instant, c'est quelque chose que vous avez pressenti, ressenti, vécu à travers l'opéra même,
oui.
Peut-être?
Oui, parce que j'ai senti toujours que les chanteurs étaient des gens fragiles parce que l'instrument est fragile, parce qu'il faut en prendre soin, qu'il y a cette hygiène de vie qui est assommante, qui est tellement sur un fil. Mmh. Et j'ai tellement de respect pour ces gens parce que leur fragilité me bouleverse. Parce que c'est un métier très très difficile et que les critiques sont très très difficiles, comme ils ne le sont pas avec la moindre petite starlette qui fait un téléfilm.
Oui, une exigence qui est,
le public est tellement féroce avec les chanteurs.
Et vous, chanter, ça ne vous a pas...
Si, moi j'ai chanté un petit peu dans les chœurs de l'école, on y reviendra peut-être plus tard dans l'émission.
En tout cas, vous avez chanté avec votre mère et beaucoup de leaders de Schumann.
Es grünet ein Nussbaum vor dem Haus. Duftig luftig breitet der Blättrich die Äste aus. Viel liebliche Blüten stehen dran. Winde, Winde, komm. Herzlich zu fahren. Es flüstern je zwei zu zwei gepaart. Neigend, beugend, zierlich zum Kusse die Häugchen zart. Flüster von einem Mägdlein, das dächte die Nächte und Tage lang, wusste auch selber nicht was. Sie wer mag verstehen, sogar leise weiß. Flüstert von Bräutigam und nächstem Jahr, vom nächsten Jahr. Das Mägdlein horchet, es rauscht im
Dietrich Fischer-Dieskau avec Christoph Eschenbach dans cette interprétation de d'un Nussbaum de Schumann, un lied composé à l'époque des fiançailles de Schumann avec Sarah Wieck. Et ils se retrouvent donc sous un noyer, enfin ça raconte l'histoire de deux amoureux qui se retrouvent sous un noyer pour s'embrasser presque en harmonie et avec la douceur de l'arbre. C'est donc un lied que vous chantiez, je crois, à Miracazar quand vous étiez enfant avec votre mère. En fait, c'est par là que ça se passait, je veux dire, le lien entre votre mère et vous.
Oui, je pense, parce que je l'aidais à apprendre les textes. Et oui, c'est un lien forcément embryonique. Et je pense qu'elle chantait quand j'étais dans son ventre, parce qu'elle chantait Schubert, Schumann et tout ça. Mais ça a créé un lien indestructible et un amour infini de la musique qui a justement nourri ma curiosité profondément. Parce que je dis toujours, je suis une espèce de chanteuse d'opéra frustrée.
C'est vrai.
Mais j'aime beaucoup dans ce lied qu'il y a l'éloge de la simplicité. Il y a quelque chose de simple, de beau, d'harmonieux, évidemment d'amoureux. Et on sait combien ça a été difficile pour Schumann d'aimer
alors
cette
dans
femme.
Alors dans ces temps, oui,
parce
c'est
que
vrai.
le père de Clara Wieck ne voulait pas du tout de cette union, parce que dans la famille de Schumann, ils étaient quand même très suicidaires. Et en même temps, ces mélodies qu'il écrit pour elle, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, plus romantique, plus saisissant, plus transportant que ça. Et puis la voix de Fischer-Dieskau, je trouve qu'il y a cette prononciation, cette pureté. Et on aime les voix d'hommes aussi. J'aime beaucoup Schwarzkopf. La version de référence, ma version de référence, c'est Schwarzkopf.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Et pour revenir à cette phrase, forget me not, à Miracazar, je voulais le relier aussi avec cette présence de la nature dans ce lied. Oui. Et puis, je me demandais si aussi dans votre vie, je crois que la nature a joué son rôle. Enfin, vous avez grandi dans un environnement, dans une ferme, c'est ça?
Oui, j'étais en fait en pension en Angleterre et j'étais cavalière depuis l'enfance et je montais beaucoup en Irlande. Et je montais les chevaux des autres, parce que, voilà. Et... I was, comment on dit, for rent.
Ah oui.
déjà, on me louait pour monter les autres chevaux. Donc, et les chevaux difficiles, des cas vraiment branques. Et c'est vrai que, comme j'ai fait du concours complet plus tard, ça se passait beaucoup dans les bois. Et c'est une façon de dresser le cheval après à l'obstacle. Donc, l'été, c'était beaucoup de concours complet. Et l'hiver, c'était dans les bois, pour sauter les bois, les obstacles que la nature forme, ou formait.
Qui viennent du haut ou du bas, d'ailleurs.
Oui, exactement. Et il y a toujours ce contact avec l'animal vivant qui est le cheval. Et c'est vrai que les matins, souvent, donc je faisais les boxes, je nettoyais les chevaux, il fallait s'en occuper pleinement pour le mériter. C'était un privilège. Et puis après, aller à l'école. Et puis, ça laissait pas beaucoup de place à l'amitié, mais le cheval était mon ami.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me?
hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Hey You, un extrait de Pink Floyd The Wall, une chanson que vous avez écoutée beaucoup, Amira Khazar, je crois, pendant, justement, dans le rapport aux chevaux dans votre adolescence, c'est ça, pendant ce pensionnat?
Non, même plutôt à 8 ans, tout ça. Ouais. Dans l'écurie, j'ai constaté que les très bons chevaux, les chevaux sensibles, aimaient la bonne musique et actaient, bougeaient et réagissaient à la bonne musique. Et c'est que ce soit Wagner, tout ce que je leur jouais, Nussbaum, tout ce que je mettais, il y avait un tourne-disque, il y avait des cassettes. Et
dans l'écurie?
Non, dans l'endroit où il y avait les selles.
D'accord. À côté.
Ouais, il y avait les selles et les brides. Et on avait la radio. Et toute la journée, on mettait de la musique pour les chevaux. Et c'était génial parce que je voyais qu'ils réagissaient. Et quand on allait faire les grands concours, souvent en Angleterre, les county shows, il y avait les bands, des brass bands,
orchestres. Des orchestres, des fanfares.
Fanfares, voilà, merci. Et c'était génial parce que les chevaux un peu stars ou les doubles poneys, ils rentraient comme ça. C'était des vrais Bobby Dazzler, ils rentraient dans l'arène. Ils savaient prendre la lumière et quand il y avait de la bonne musique, ils étaient encore meilleurs.
Alors justement, parlons-en de la bonne musique parce que j'aime bien cette ouverture, évidemment, qui est la vôtre. Vous qui avez grandi dit dans cette atmosphère d'opéra. Pink Floyd, est-ce que c'est pour vous, ça s'inscrit dans cette continuité de bonne musique? Vous le disiez en l'écoutant tout à l'heure, c'est un chef-d'œuvre, c'est vrai.
Cet album est un chef-d'œuvre. Oui, vraiment, c'est tellement extraordinaire et ça ne vieillit pas et c'est libre. On sent que c'était des musiciens libres, qu'ils étaient inspirés. Bon, je sais pas quelle substance ils ont pris ou pas, mais c'était une époque où on censurait pas les gens, où il fallait pas penser à vendre, marketing, et puis la singularité était admise. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être singulière. C'est difficile de se démarquer.
Vous les prouvez comme ça?
Bah, c'est puni. Les gens qui sont singuliers, qui sont à part, qui sont souvent punis.
Et vous, justement, vous étiez quel genre d'enfant, adolescente,
fond de classe inefficace en maths, mais plutôt bon élève parce qu'il fallait quand même faire plaisir au père, hein. Tout cette espèce de chose qu'il y a au-dessus, le géniteur. Et puis, quand on est trois filles, comme c'est notre cas, d'ailleurs comme dans la pièce de Simon Stone, que j'ai joué les trois sœurs à l'Odéon, bah les filles sont en compétition pour l'amour du père, et c'était trois filles, une était historienne de l'art, l'autre écrit, et moi je voulais être comédienne et historienne et tout. Donc les filles, quelque part, entre elles, veulent avoir,
Le premier rôle ou le...
Oui, avoir l'attention du père, ouais. Qu'elle ne voit jamais.
Donc, en fait, entre elles se tirent la bourre et puis il y a...
Les rares jours où elles le voient en vacances. Donc, c'est vrai que cette musique, et c'est vrai que même si notre mère aimait la musique classique et tout ça, notre père aimait Maurizio Pollini, Michelangelo Benedetti, il avait beaucoup de goût en musique, mais il aimait aussi énormément Fleetwood Mac, la bonne musique Bowie, Aladdin Sane.
Il aimait Kate Bush.
Beaucoup.
Out on the winding, windy moors, we'd roll and fall in grief. You had a temper like my jealousy, too hard, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you. Loved you too. Bad dreams in the night. He told me I was going to lose the fight. Leave behind my walking through the high tea.
Un extrait de Wuthering Heights de Kate Bush. Pour poursuivre cette conversation avec vous, Amira Kazar, vous êtes l'invitée de Musique et Moi ce matin. Et dans ce contexte de musique classique très présente, il y a aussi ces figures solaires, comme celle de Kate Bush, qui a joué un rôle fondamental pour vous.
Solaire, je sais pas. Moi, je pense, je la vois plus comme une originale, une femme de l'extase, la figure du romantisme absolu, celle qui se brûle les ailes, c'est la fille byronesque,
ou de Lord Coleridge. Byron, quoi.
Ouais, il a pas besoin de Lord. Les poètes ont pas besoin de titres avant. Et elle est cette espèce de brune flamboyante qui l'extase est sur son visage quand elle chante, et puis c'est encore une originale. Et j'aime bien parce qu'à la fois elle est opératique, elle est à la fois romantique, et c'est une grande brûlée, et on sent que le désastre, et ce livre a été si important dans ma vie de jeune fille. Wuthering Heights, Les Hauts de l'Hurlevent.
Dans quel sens? C'est l'histoire que ça raconte?
Oui, parce que Heathcliff... Alors déjà, cette musique, je l'écoutais énormément sur le film Anatomie de l'Enfer de Baya. Catherine Graham avait confisqué mon tourne-disque. C'était quand même un peu terrible, parce qu'elle voulait que je sois pleinement présente sur le plateau. Et puis, c'était la musique qu'on chantait, comme je vous ai dit plus tôt, je chantais dans les chœurs à l'école. Et donc, on prenait des quarts tous les week-ends et on allait chanter dans telle ou telle église.
C'est pour ça que vous le chantiez là à l'instant.
Ouais. Et alors, nous, on se mettait toujours à la fenêtre comme des sages et on faisait Heathcliff, it's me, it's Cathy, I've come home now.
Donc, c'est Cathy qui rentre à la maison.
Exactement. Ouais. Et comme, bon, je pense que j'étais pas que bonne élève, j'étais très rebelle. Et on avait des uniformes, mais tout se passait en dessous de l'uniforme. Donc, on déformait l'uniforme à l'intérieur. Et cette éducation nous a permis, cette éducation très rigoriste, nous a permis de déployer notre imagination. Et j'adore cette femme parce que je trouve qu'il y a une vraie imagination. Il y a une vraie sens de lyrisme, il y a une vraie sens de la musicalité. Et c'est la musique que j'écoutais, donc... Voilà.
Et celle-là, jamais, enfin, on va voir, parce que c'est une autre version de Wuthering Heights, une version plus récente, mais que je voulais vous proposer pour voir si ça vous provoquait le même effet, Amira Kazar.
Thank you.
un extrait de la composition de Frédéric Chalin pour la comédie musicale Wuthering Heights. Mmh. C'est la vocaliste de Cathy, interprétée par Dania Damrau, avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, sous la direction de David Charles Abel. Et c'était pour vous demander déjà si ça vous parlait, comme l'interprétation par Kate Bush, c'est complètement différent, ouais, hein, ouais. Amira Khazar. Mais c'était aussi pour
c'est
évoquer...
C'est plus cucu, ça.
Vous trouvez ça cucu?
Ouais. C'est pas trop mon choix, mais je suis heureuse de l'avoir découvert et je connaissais pas. Donc c'est, oui, c'est l'errance de Cathy, quoi, sur les Mauses, qui va venir hanter Heathcliff. Le voilà. Beau Heathcliff qui s'est détruit. En fait, Heathcliff est vraiment une victime parce que, il est mulâtre, on sait pas trop, on dit que c'est comme un gypsy boy et il dort dans l'écurie et Cathy est la fille du maître. Et le film est si beau, le film de William Wyler est si beau avec Merle Oberon,
avec
qui était elle-même
Laurence
moitié
Olivier.
Indienne, oui. Mm. Et Merle Oberon qui était moitié indienne, qui cachait ses origines parce que c'était mal vu à l'époque, parce qu'elle était une fille des colonies, donc. Et c'est tellement beau l'errance de Cathy et de Heathcliff, et ce sont des amants éternels.
Oui,
et
c'est...
donc elle va être donnée, Cathy va être donnée à un autre maître bourgeois à côté, et tous les soirs Heathcliff va aller voir dans sa fenêtre comment ça se passe. Et elle le guette, il se guette. Enfin, c'est très beau. Et puis elle va mourir et elle va venir le hanter. Donc il va la retrouver dans les rêves, pardon.
Et par rapport à cette histoire qui est très forte, qu'on évoque avec vous là, c'est vraiment dans la culture britannique, cette histoire des Hauts de Hurlevent, d'Emily Brontë.
Oui, oui,
ça fait partie du...
Bien sûr, des femmes fortes, parce que elles étaient obligées, ses sœurs. D'ailleurs, c'est une famille qui a connu tellement de peines, de difficultés. Bah, Téchiné, on a fait un film super. Et les filles étaient obligées d'être instites, elles sont mortes. C'est tragique, la vie de cette famille. Et ce qui est intéressant...
La famille Brontë, hein.
Brontë. Ouais. Et elles ont été obligées de prendre des noms de plumes d'hommes pour se faire, au début, comme George Eliot, pour se faire publier.
Publier, ouais, pour exister,
pour
en
exister,
fait, hein.
Elles ont envoyé leur manuscrit à l'éditeur avec un nom d'homme. Et puis après, on a découvert, une fois que le talent était au rendez-vous, ben voilà, comme toujours, quoi.
Donc, par rapport à cette histoire de matriarcat, là aussi, ça joue son rôle dans la culture britannique. C'est-à-dire que ces femmes ont permis peut-être de...
Une ascension aussi, une ascension aux hauteurs, à l'élévation, à l'éducation et aux rêves. Et que c'était possible, en fait.
Sie heulten und warf sich in ihren Winkel.
Wo bleibt Elektra, extrait d'Elektra de Richard Strauss avec l'orchestre de l'Opéra d'État de Vienne sous la direction de Karl Böhm. Alors c'est vraiment le sommet absolu de la tragédie lyrique. Hein,
c'est mon opéra favori.
C'est vrai ?
Ah oui, s'il y avait un que je devais choisir, c'est celui-là.
Avec tous les excès d'orchestration, cette tragédie d'Elektra, enfin, cette histoire...
Oui, mais c'est l'ouverture est hallucinante et tout est dedans. Le meurtre, l'amour du père, la guerre de Troie qui est derrière, le matricide, le patricide, tous les thèmes, la fille mal aimée, tout est là. Et j'adore cet opéra. La musique est si puissante, mais en même temps, il y a de grands moments de subtilité quand même, parce que chez Richard Strauss, comme chez Wagner, il me semble, qu'il y a toujours cette chose de tension-relâchement. Tension release. Et c'est ça qui fait aussi des grands acteurs et des grands chanteurs, il me semble, dans ce que j'ai pu observer. C'est ce rapport à la tension au relâchement.
C'est presque physique, hein?
Ben oui. Mmh. Oui. Et c'est incroyable. Les deux femmes, je tenais absolument à ce qu'il y ait Rizanek et Birgit Nilsson, qui les deux ont joué à la fois et Elektra et Clytemnestre plus tard. Mmh. Et c'est fabuleux aussi ça, que les chanteuses d'opéra, comme les actrices, puissent vieillir avec les rôles et connaître intelligemment leur registre et aller vers
d'autres,
loin de la vanité, ouais, en fait.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Avec la comédienne tragédienne Amira Kazar ce matin jusqu'à 12h30 sur France Musique. Comment en êtes-vous venue au théâtre finalement, Amira Kazar? Comment ça s'est passé?
Bah, je crois que je suis née dedans. J'avais une mère quand même qui était assez drôle. Et puis, on aime bien l'humour. Moi, j'aime bien l'humour sur soi. Et c'est quelque chose qui est très britannique aussi. Les femmes ont beaucoup d'humour sur elles-mêmes. Et ça donne quand même... C'est un peu plus jubilatoire. J'étais quand même à l'école avec des gens qui étaient drôles Et il fallait être drôle, c'était vraiment de rigueur. C'est pas que c'était volontaire, c'était presque inscrit dans les gènes de ces gens. Et puis, pour survivre, je me suis rendu compte qu'en fait, l'ego était l'élément destructeur de toutes les relations humaines. L'ego surdimensionné et le manque de respect. Et je trouvais que l'humour venait toujours sauver les situations absurdes. Et c'est vrai que les Anglais ont un sens de l'absurde qui est très, très, très poussé et très communicatif.
Et le rapport avec le théâtre, du coup, cette histoire d'ego ?
Ben, le théâtre m'est venu déjà dans les cours à l'école parce qu'on avait une dame qui venait de la RADA, qui s'appelait de la Royal Academy, qui était vieille, très âgée, très bossue, voûtée, qui venait dans sa vieille voiture et était notre professeur d'élocution. Donc on a appris avec elle les poèmes de Byron, de aussi Tennyson, Coleridge, tous les romantiques du 19e, et aussi à apprendre à dire la pentamètre.
Le pentamètre.
Voilà, ce qui est très dur, je trouve, c'est difficile.
Donc ça date de l'adolescence, enfin.
Oui.
D'accord.
Non, l'enfance, bébé.
L'enfance même. Mais donc oui. À ce moment-là, vous vous êtes dit, je serai comédienne quand je serai grande.
Ah oui. Ah
c'est
oui.
Vrai.
Oui, oui, historienne, comédienne, ouais.
Ah, les deux.
Ouais.
Check it out.
Un extrait du Château de Barbe Bleue de Béla Bartok, interprété par l'Orchestre Symphonique de la BBC sous la direction de Pierre Boulez, avec notamment Tatiana Troyanos et Sigmund Nimsgern. C'est important cette histoire parce que c'est la métaphore de la solitude radicale, hein, mise en perspective à travers la difficulté du rapport amoureux entre hommes et femmes. Et ça, ça vous parle, je crois,
beaucoup,
Mira Kazar.
Beaucoup, beaucoup. Et puis c'est aussi pour la comédienne que j'essaye d'être. Il y a cette chose où elle est obligée de narrer une histoire tout le temps. Donc elle doit fournir du contenu, fournir de l'imagination à cet homme, sinon c'est sa mise à mort.
Ouais.
Et finalement, elle arrive à vaincre et à survivre par le fait de narrer, de raconter une histoire. Et c'est l'élément primordial de l'acteur, c'est de raconter une histoire. Et c'est une femme très forte, très puissante.
Et par rapport à la...
Qui va faire face à Barbe Bleue.
Voilà, et par rapport au rapport à l'homme, vous, dans votre... On parlait tout à l'heure de votre place de femme dans la société, de réussir à prendre sa place. Dans votre rapport à l'homme, est-ce que ça vous parle à vous aussi,
oui,
Mira Kazar?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai jamais cherché à écraser les hommes. What you see is what you get.
Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez.
Ouais. J'essaye pas de... Il n'y a pas de trouble, de jeu, de... J'ai horreur de ça. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir eu, dans ma très petite enfance, un père qui était hautement sportif, qui pratiquait des sports très dangereux, et qui nous a appris à ne pas avoir peur. Et il a dit à ses trois filles, ne vous mariez pas. Il nous a donné la liberté, finalement. Ne vous mariez pas. N'ayez pas d'enfants, si vous ne le voulez pas. Et payez tout vous-même.
Et c'est quelque chose qui est resté, qui s'est inscrit?
J'espère.
Ouais.
Oui, oui.
Vous évoquiez tout à l'heure aussi, en écoutant cette
J'ai souvent souffert, en tout cas en France, de l'inégalité du rapport salarial, voilà. Et je suis contente que toutes ces choses arrivent.
Bouge enfin,
qu'à talent égal, hommes et femmes soient payés les mêmes choses.
Ça a été une souffrance parce que vous ne vous y attendiez pas en arrivant en France, justement?
Ben en fait, quand j'étais mannequin, c'est un des seuls métiers, quand j'étais plus petite, avant d'avoir fait le Conservatoire National, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'étais reçue, les filles étaient payées beaucoup plus, on était payées 4 fois plus que les garçons. Et c'était très étrange de revenir au fait que les garçons soient payés 4 fois plus à notoriété égale, et qu'on puisse pas être dans cette...
En
zone.
Quelques mots, le conservatoire, parce que je crois que le Château de Barbe Bleue, vous l'avez aussi écouté au conservatoire,
oui,
dans la classe de
Madeleine
Marion.
De feu Madeleine Marion.
Oui.
Quelle femme.
Et
wow.
Pourquoi le lien avec le théâtre, là encore, il se fait où?
Je sais pas, je crois que je cherche toujours l'éternel ailleurs. C'est pas un endroit fixe, le théâtre, pour moi. Mais, je sais pas, cette musique me rappelle tellement elle. Et sa façon à elle d'avoir cette fantaisie, cette souffrance qu'elle avait, et cette joie qu'elle transmettait. Je sais pas, mais je crois que en moi, il y a toujours cette recherche de l'éternel ailleurs, et le théâtre, et les films, et le cinéma, et mon métier est une réponse valide.
La langue aussi,
valide,
j'imagine.
Ça. Complètement.
La langue, puisque vous en parlez plusieurs.
Complètement. Et ça, c'est en hongrois, et c'est tellement beau. Cette langue est belle.
Thank you.
la chanson perpétuelle d'Ernest Chausson, interprétée notamment par Michel D'Alberto et Jesse Norman, qui a disparu cette nuit, en fait, à Miracazar, puisqu'on enregistre cette émission le 1er octobre, et que, en fait, vous êtes sous le choc.
Ah oui, ah, vraiment. Je l'ai vu beaucoup. Je l'ai vu faire le chant de Winterreise avec Bob Wilson. Je l'ai vu chanter Barbe Bleue. Je l'ai vu faire tellement, tellement de choses au Châtelet aussi. Mmh. Et je suis bouleversée par sa mort. Et puis, ah oui, elle, Leontine Price, toutes ces voix belles, noires. Marilyn Anderson, la pionnière, qui a chanté, la première à chanter au Met. Et j'aime la puissance et la prononciation, la puissance de... Comment elle prend à bras le corps Chausson, c'est jamais mièvre. Janet Baker l'a chanté sublimement, mais je trouve que le français, la prononciation, le phrasé de Jesse Norman, je crois qu'elle a été l'élève de Janine Rice, avec qui Callas avait travaillé, est juste impeccable. Parce que tous les chanteurs, ou mes amis, ou les collègues, ou les gens que je rencontre, même à Salzbourg, Elena Stikina, qui faisait m'aider, disent que chanter en français, c'est très, 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 très difficile, parce qu'il y a beaucoup de voyelles.
C'est une langue que vous parlez depuis toujours, le français ?
Oui, oui, et dans ma famille.
Vous avez grandi en Angleterre, mais vous êtes bilingue.
Ah oui, oui. Et puis je suis très franglais, mais je ne fais pas exprès. Je crois que je suis une vraie schizophrénie linguistique, hélas. Mais voilà.
Vous interprétez dans la série réalisée par Rebecca Zlotowski, qui est actuellement diffusée sur Canal+, dans sa première saison. Vous jouez le rôle d'une chef d'orchestre internationale. Mm-hmm. Dans votre rapport à la musique depuis toujours, dans ce que vous avez pu percevoir depuis votre enfance, ça vous a aidé, ça vous a inspiré, Miracazar ?
Oh, beaucoup, beaucoup. J'aime bien jouer des femmes qui pratique des professions. Et ça, c'était une profession rêvée. Et c'est vrai que je suis allée beaucoup observer Simone Young à Munich et voir comment elle travaillait, parce que c'est une femme. Et oui. J'ai regardé beaucoup de chefs d'orchestre, Lorenzo Viotti avec qui je vais travailler, beaucoup de chefs d'orchestre. Et c'est vrai que le corps participe. Et c'est très difficile de distinguer, non, de scinder le corps entre la main gauche
et la main droite.
Oui, c'est très dur. Je sais pas, c'est réussi ou pas?
C'est très réussi, c'est
ne c'est le dans dis le pas tempo. Parce que je suis là.
Non, mais c'est vrai, c'est pas simple aussi, j'imagine la place autoritaire du chef d'orchestre, ouais. Comment la prendre, alors vous qui êtes ouais. Une femme libre.
Oui, en même temps, j'aime bien l'idée que les chefs soient à l'écoute aussi de l'orchestre et qu'il y ait de la tendresse. Et ma prof m'avait dit une chose incroyable. Stéphanie m'avait dit: ne cherche pas l'amour de l'orchestre.
Thank you.
La danse des sauvages des Indes galantes de Rameau, interprétée par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski, pour évoquer avec vous cette série, Amira Kazar, Les Sauvages, réalisée par Rebecca Zlotowski. Une histoire difficile, enfin compliquée, qui est une histoire politique d'ailleurs, et qui dépeint bien la France actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
La France de demain, la France actuelle. C'était intense à tourner.
Oui, parce que ça pose beaucoup de questions. La question de la place de la femme, en effet.
Absolument.
La place...
Les femmes sont fortes, hein, toutes.
Elles sont fortes et à la fois, elles...
Intègres.
Oui, et donc, Les Sauvages, c'est le compositeur Rob qui s'est inspiré. Comment ça s'est fait, en fait? Vous savez comment ça s'est fait? Si Rob s'est dit, tiens, le titre, c'est Les Sauvages, je vais aller piocher dans les Indes galantes et prendre la danse.
Je sais pas, je suis pas du tout dans sa tête. Je ne peux pas savoir. Mais en fait, moi, ce que je devais travailler, c'était les planètes. De Holtz.
Et alors justement...
Et ça, j'ai découvert, parce que je ne connaissais pas Holtz. Je savais à peu près qui c'était, mais je ne connaissais pas très bien. Et j'ai travaillé Saturne.
Pas simple.
Non, pas simple. Et c'était ça, en fait, que je devais diriger. Que vous avez vu, donc, à la maison de la radio, pour la répétition, la scène où le président vient, et il encombre, et il empiète sur le travail de sa femme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une femme vachement intègre. Qui
et indépendante.
Et indépendante, et qui a fait, elle, bouillir la marmite et qui ne veut pas sacrifier son art. Et ils ont un pacte magnifique ensemble. C'est que la musique passera avant tout. Et je crois que c'est comme ça dans ma vie aussi.
L'art avant tout.
Ouais.
Et par rapport à cette question des chefs d'orchestre, on l'a évoqué tout à l'heure juste un instant, mais on le sait que de plus en plus, il y a un concours qui est organisé à la Philharmonie de Paris pour faire émerger des nouveaux talents de chefs. Oui. Est-ce que ça vous a intéressé aussi, vous, par rapport à votre démarche, de vous dire, voilà, je vais incarner le rôle d'une femme chef d'orchestre?
Bien sûr, parce que moi j'ai travaillé avec Marine Alsop, qui était la pionnière. J'ai fait Jeanne au Bûcher avec elle, j'ai eu cette chance avec la Symphonique de Londres, au Barbican Center. Donc Jeanne au Bûcher, texte français, musique sublime, texte de Claudel. C'est là où Madeleine Marion et son enseignement m'ont été utiles. Voilà. Et oui, je me suis dit que c'est quand même un métier rêvé. Et là, je pouvais allier à la fois ma passion pour la musique et tout ce qu'il y avait à exploiter de femmes brisées quand on va tirer sur le mari dans le rôle, parce que c'est une femme fragile, c'est une artiste avant tout.
Et ça vous parle, ça réunit tout ce que vous...
Ouais. Moi, j'adorais Pina Bausch et ces femmes-là. Voilà.
Ah bah tiens, puisqu'on parle de Pina Bausch, peut-être que ça va tomber à point nommé. un extrait du Sacre du printemps de Stravinsky interprété par l'Orchestre philharmonique de New York sous la direction de Pierre Boulez. Et on évoquait tout à l'heure Pina Bausch, voilà une metteuse en scène qui vous a inspiré. Et puis je crois que le Sacre du printemps aussi, enfin ça fait partie des piliers de votre vie, Amira.
Absolument,
Kazar.
Absolument. Pina Bausch déjà parce qu'elle a inventé un autre langage quand même au théâtre, où elle a quand même mis les mots dans la danse, elle a introduit le verbe dans la danse et tout. Et puis cette poésie et cette musique me met littéralement en transe. Et je crois que cette musique, je l'écoute toujours quand je suis en proie de la tristesse, au doute. Et ça me réconforte dans le sens où il faut que je continue à m'indigner et de pas baisser les bras. Et c'est un réconfort. Et aussi de pas conformer à l'idée que je pourrais avoir de moi-même.
C'est-à-dire que finalement, sortir tout le temps du cadre?
Un petit peu.
Ouais.
De sortir de cette chose de zone de confort dans laquelle on voudrait nous mettre, ouater.
Justement,
et que j'aime prendre le risque.
Justement, pour sortir de cette zone de confort, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi la France, Amira Kazar?
Parce
que...
Oui,
c'est ça.
Oui, oui. Parce que j'aimais le cinéma français, j'aimais l'art. La place de la culture dans ce pays est unique au monde, unique. L'Italie vit sur l'art mort, presque, pardon. Ils ont des nouveaux cinéastes formidables, comme Alice Rohrwacker et d'autres, Matteo Garrone, qui émergent. Mais quand même, ils ont juste guillotiné leur art et leur cinéma. Et nous, on a quelque chose de fertile. Et il faudrait qu'on continue à chercher les auteurs. Mais il y a une génération fabuleuse qui vient. J'ai vu des films fantastiques, des films français. Mmh. Mati Diop, Rebecca Zlotowski, plein, Bruno Dumont, toujours là, génial. Il y en a plein. Les Misérables.
Oui.
L'Adjli, quel metteur en scène. Quel lyrisme, quelle caméra.
Donc, c'est ça que vous êtes venu chercher, c'est ça que vous aimez côtoyer.
Oui.
Et la musique française, parce que vous l'écoutez beaucoup. On n'en a pas écouté. Claude Debussy, par exemple,
Beaucoup. Fondamental dans ma vie, Debussy. Pareil, c'était pas un suiveur, c'était un novateur. Donc, il faut toujours se mettre du côté des gens qui aiment le risque, qui aiment les auteurs et qui sont inspirants et qui vont vous emmener dans des chemins inconnus.
La tragédienne que vous êtes, parce que je me suis amusée à vous taquiner là-dessus au cours de cette émission, mais il y a quelque chose de très gai chez vous.
J'espère. Ouais. Je suis rentrée avec un fédo quand même au conservatoire.
Ah bah voilà.
Oh, j'en ai marre, je fais tellement de rôles tragiques là, c'est fou. Oh, j'ai besoin d'un peu de comédie là.
Donc si je vous propose passe-pied pour terminer cette émission de Debussy, ça vous convient?
Parfaitement.
Je vous remercie vivement d'être venu partager cette heure et demie avec nous, Amira Kazar. On vous retrouve sur tous les écrans, que ce soit le cinéma, l'écran d'ordinateur ou télévisuel, avec Les Sauvages de Rebecca Zlotowski. Et puis, on espère prochainement avec Lorenzo Viotti dans Jeanne au Bûcher. C'est peut-être en préparation.
Oui,
merci
2021.
Beaucoup, Amira Kazar, et à très bientôt.
Thank you.
Philippe Cassard, qu'on salue, que vous pourrez retrouver le samedi après-midi sur France Musique, interprète cette suite bergamasque Passe-pieds de Debussy pour terminer cette émission en compagnie d'Amira Cazar, qui était l'invitée de Musique et moi ce matin. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant son actualité sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Merci à Philippe Mercher qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation. Attachée de production Marie Ferdinand, je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique. On se retrouve dimanche prochain avec joie à 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.